prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Bonne fin de semaine. Joyeuse Pâques. On se reparle mardi, 7:55 dans le Pit Stop, 14h avec les demoiselles. Bye bye.
Salut.
Même après la date limite des échanges, l'alignement de Boulevard 102 vient de signer une acquisition de taille. Dès le 7 avril, la réputée journaliste Catherine Bachand se joint à Max Larouche dans le Point de Max. Une bonne passe à palette pour faire le suivi des gros dossiers dont tout le monde parle. Tous les jours, 10h, la fougue, la curiosité et la vivacité d'esprit de Max seront maintenant appuyés par la crédibilité et l'expertise journalistique de Kat Bachand. Le show que personne ne veut manquer. Le Point de Max avec Catherine Bachand puis Max Larouche, dès le 7 avril. Soyez là, mesdames et messieurs.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
Au podcast ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, c'est un énorme plaisir, devrais-je dire, le scénariste, réalisateur, dramaturge et écrivain Patrick Sénécal. Monsieur Sénécal, salut!
Salut, salut!
Merci d'être avec nous ce soir puis de faire partie du podcast de Marceau le soir. C'est la première rencontre que j'ai l'occasion d'avoir avec vous. Fait que ma première question, parce que je suis un de vos lecteurs assidus, faut-tu avoir un esprit troublé pour être Patrick Sénécal?
Un peu, j'imagine, mais la bonne nouvelle, c'est que j'écris. Fait que tout ce qui est troublé dans moi, tout ce qui est bizarre, je le mets dans mes romans, je le mets dans mes films. Bon, c'est ça. Je pense que je me débarrasse d'une certaine noirceur en écrivant. Ce qui fait que dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez de tout à fait équilibré, de tout à fait normal, qui est vraiment pas très épeurant, en fait.
Non. Patrick Sénécal n'est pas épeurant. C'est-tu la première fois que vous faites poser cette question-là?
Non.
Non, ouais, c'est ça.
C'est très souvent le monde. En fait, puis même, je te dirais que souvent, le monde qui vient me voir dans les salons, il y en a qui me regardent d'un drôle d'air et qui disent « Ah, je m'attendais pas à ça. » Ils s'attendaient même à voir quelqu'un d'une espèce de gothic dark. Je sais pas trop à quoi ils s'attendaient, mais ils s'attendaient pas à un gars aussi banal que moi. Fait que, ouais,
comment ça. Patrick Sénécal est devenu écrivain? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier-là? Puis d'ailleurs, vous êtes parmi vous êtes parmi ceux qui sont capables de gagner leur vie avec leurs livres au Québec.
Ouais. Je suis très chanceux d'ailleurs de tout ça. Je suis très privilégié. Je ne voulais pas en faire un métier quand j'étais jeune, parce que moi, quand j'étais jeune, puis là, je te parle quand j'avais 10-11 ans dans ce coin-là, j'étais vraiment... j'écrivais déjà, mais j'écrivais parce que je trouvais ça le fun. Il n'y avait pas de plan dans la tête, là. Il n'y avait pas, je vais un jour devenir écrivain. Moi, j'écrivais parce que j'avais des idées, parce que je trouvais ça cool d'écrire des histoires, puis mes chums me lisaient, puis ils trouvaient ça le fun aussi. J'ai commencé à penser à peut-être publier un jour vers 16-17 ans.
Okay.
Parce que mes chums m'en parlaient. Puis là, ça, c'est l'âge aussi qui est dangereux. Là. C'est l'âge où que tu peux devenir un peu fraîchi et avoir la grosse tête. Ce que j'ai eu. À un moment donné, je me pensais un peu trop kingpin. Puis j'ai eu une couple de claques à la gueule de monde qui disait « Ben non, bon, j'ai participé à un concours d'écriture que ça n'a pas marché pantoute. » Fait que là, à un moment donné, je me dis « Bon, t'es peut-être pas aussi hot que tu penses. Il faudrait peut-être que tu te calmes les nerfs et que tu travailles. » Puis là, j'ai commencé à penser au sérieux à partir de, je dirais, 20 ans à peu près.
OK, mais c'est une belle leçon de vie, ça.
Oui, c'est une leçon d'humilité. Puis en art, ça en apprend parce qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui pense qu'il est super bon. Ça, en général, ça ne fait pas des artistes très intéressants. Il y a des exceptions, là, mais en général, ça ne marche pas de même.
Vous êtes né à Drummondville. Est-ce que vous avez grandi à Drummondville aussi?
Je suis à Drummondville jusqu'à l'université, en fait, donc jusqu'à peu près 19 ans dans ce coin-là. Puis j'y retourne encore assez souvent parce que mes parents habitent là, ma sœur habite là. Dans tous mes romans, je parle de Drummondville parce que oui, c'est une façon de rendre hommage à ma ville natale. Puis en plus, ben c'est drôle parce que Drummondville, c'est une ville qui se passe pas grand-chose, C'est pas une ville très dangereuse. Alors que tout à coup, dans mes romans, Drummondville devient une espèce de centre névralgique du crime, du mystère, du meurtre. C'est quand même, je trouve ça assez drôle, alors que c'est une ville qui est très tranquille. Ouais.
Les échevins à Drummondville, est-ce que vous en avez déjà parlé, M. Sénécal?
Ben, il y a du monde qui m'en ont parlé parce qu'en fait, ils trouvent ça plutôt drôle. Moi, j'ai reçu une coupe d'honneur à Drummondville, là, du conseil de ville, de la bibliothèque. Bon, puis à chaque fois que j'y vais puis je rencontre des dignitaires, ils sont plutôt charmés de ça. Ils trouvent ça plutôt drôle. Il n'y a personne qui me dit Hey, tu fais une mauvaise réputation à notre ville. En fait, je pense qu'ils aiment bien ça, puis ils savent bien là, que le monde est capable de faire la part des choses.
Ben
Fait
oui.
que non, c'est de la bonne pub, en fait.
Mais en même temps, tu sais, Drummondville, sans trop être rempli de préjugés, c'est pour les gens de Montréal ou pour les gens de Québec, Drummondville, c'est l'endroit où tu arrêtes pour manger puis aller aux toilettes, là.
Exactement. Et pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps, c'était la ville qui avait le plus de restaurants per capita.
Ben oui.
Le boulevard Saint-Joseph, en rentrant à Drummondville, c'est rien que ça qu'il y a des restaurants, parce que, comme tu dis, tout le monde arrête là pour aller manger. Fait que si vous voulez ouvrir un resto, aller à Drummondville, ça risque de marcher.
C'est un méchant beau spot. Puis dans votre jeunesse, est-ce que vous étiez un grand lecteur?
Oui, mais en fait, c'est ça qui m'a donné le goût de lire, d'écrire, je veux dire. C'est que je lisais beaucoup. J'avais 9 ans, 10 ans, puis je lisais beaucoup, mais j'avais de la misère à trouver des livres que j'aimais. Puis, à un moment donné, je me suis mis à lire des livres d'horreur un peu plus pour adultes. Je comprenais pas tout parce que j'étais kid,
Ouais.
mais j'ai découvert qu'on pouvait avoir peur en lisant. Parce qu'il n'y avait pas de livre de peur pour enfants quand j'étais jeune. Donc, je suis vieux, moi, là. Maintenant, il y en a plein, mais à l'époque, ça n'existait pas. Fait qu'il fallait aller voir les Stephen King, les Edgar Allan Poe, les Lovecraft pour découvrir des livres de peur. Et là, j'ai découvert ça, puis c'est quand j'ai découvert ça, quand je me suis mis à lire ça, que j'ai fait « OK, moi, je veux écrire des histoires de même. » Ça a vraiment commencé comme ça.
Okay. Parce que la lecture, pour vous, c'était une possibilité d'avoir très peur. Parce que là, avec
Ouais.
l'image, tu sais, quand on écoute un film, on voit l'image, puis on peut ressentir, bon, avec
Ouais.
la poursuite et tout ça, puis la musique aussi, on peut
Ouais.
ressentir quelque chose, mais on le voit. Tandis qu'avec le livre, moi, les images que vous me transmettez, c'est probablement pas la même image que mon voisin qui est à côté de moi, qui lit le même
Exact.
livre, lui. Donc, vous avez découvert que vous pouvez avoir très peur avec les livres.
Ouais, les mots peuvent évoquer des images. Puis effectivement, c'est pour ça que quand on lit un livre qu'on a beaucoup aimé, puis qu'on va voir le film après, le risque, c'est qu'on soit déçu parce
Ben
que
oui.
le film, les images qu'on s'est faites dans la tête ne seront pas nécessairement les mêmes que le réalisateur s'est fait. Fait que ça, c'est souvent pour ça qu'on se dit, ah, j'ai aimé mieux le livre. Ça arrive presque tout le temps, ça.
C'est-tu quelque chose qui vous a achalé, ça?
Ben, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on a fait les films, à partir de mes romans, les trois films,
Ouais.
je me rappelle que Pods, il me l'avait dit, ça. Il m'avait dit, tu sais, Patrick, tes fans, là, ils vont être difficiles, là, parce que les autres, ils ont aimé ton livre. Fait que dis-moi, ma job, je sais, il s'attendait à ce que les gens disent, ah, c'est pas aussi bon que le livre, mais il s'est dit, je vais quand même faire le mieux possible, que ce soit le plus proche. Puis, c'est sûr que je l'entends souvent, ah, c'est pas aussi bon que le film, que le livre, mais il y en a beaucoup qui me disent, bon, j'aimais mieux le livre, mais le film, il est quand même pas mal bon. Il est quand même bien réussi. C'est comme si les gens faisaient la part des choses, comme s'ils étaient conscients que, bon, il y a plus de détails dans le livre, tout ça, mais le film fait la job. Et les gens qui n'ont pas lu mes romans et qui ont vu les films, ben eux autres, en général, ils trippent plus parce qu'ils se disent justement, ils n'ont rien à comparer. C'est complètement neuf pour eux autres. Faut t'accepter ça s'il y a un film à partir d'une télé. Faut t'accepter que les fans vont comparer. Mais tu ne fais pas un film juste pour les fans, tu fais un film pour tout le monde. Fait que faut que tu gardes ça en tête aussi.
Exact. Patrick Sénécal, vous avez été à l'Université de Montréal, vous êtes bachelier en études françaises.
Oui.
Qu'est-ce qui vous attirait tant de la langue française? Puis pourquoi vous l'avez enseignée pendant 10 ans?
En fait, ben oui, la langue m'intéresse parce que je suis écrivain, fait que par la force des choses, tu finis par découvrir à quel point la langue peut être quelque chose, peut être un outil de pouvoir. En fait, quelqu'un qui maîtrise bien la langue, en général, c'est quelqu'un qui s'en sort assez bien dans les arguments, dans les idées. C'est fort. Le pouvoir de la langue est quand même très, très fort, là. Tu contrôles les situations grâce à la langue, grâce à la force des mots. Mais moi, ce qui m'intéressait au-delà de ça, c'était le pouvoir des romans. Moi, c'est des livres qui m'intéressaient. J'étais allé en études françaises parce qu'on lisait des livres. Moi, c'est ça, la capacité d'inventer des histoires et de parler de la société, de donner un portrait du monde à travers des histoires. Ça, je trouvais ça très puissant, très intéressant. Et c'est encore aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup. Je lis encore plus de romans que je lis d'essais. Je devrais lire plus d'essais, mais j'avoue que d'être capable de transmettre une image du monde à travers une histoire, il y a quelque chose là-dedans que je trouve très, très puissant, de très satisfaisant, en fait.
Et au cégep de Drummondville, ben, vous avez étudié en cinéma et en théâtre.
Je l'ai enseigné. Quand j'enseignais au cégep, j'enseignais
Ah,
théâtre,
voilà.
cinéma
OK.
et littérature.
Je comprends.
Mais quand j'étais moi au cégep, j'étudiais en littérature. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà voulu être un personnage de votre de vos livres?
Ben non, parce que en général, les personnages de mes romans, ça va très mal pour eux. Ça peut bien commencer, mais c'est rarement un happy end. Fait que si j'écrivais des comédies romantiques, je te dirais oui, mais avec le genre de roman que j'écris, non, j'aime mieux. Je trouve ma vie bien tranquille comparée à celle de mes personnages, puis c'est bien correct de même.
Ouais. Est-ce que vous écrivez à peu près combien de livres par année?
Non, moi j'écris un livre par an, 18 mois à peu près.
OK.
Il y a quelques années, j'en écrivais un par année, mais là, vieilli, j'ai plus l'énergie d'écrire 8 heures par jour comme j'ai déjà été capable de le faire. Fait que c'est plus un an et demi à peu près là, depuis quelque temps, je te dirais. Mais je suis quelqu'un qui écrit vite quand même. Parce que tu sais, mon dernier roman, il y a quand même 700 pages, j'ai écrit ça en un an et demi. Fait que je suis quand même assez efficace dans mon écriture. Fait que ça, c'est une chance que j'ai.
Puis le processus d'écriture d'un livre, est-ce que c'est un cauchemar pour vous? Ben de un, l'écrire, trouver les idées, le syndrome de la page blanche, c'est-tu quelque chose qui arrive à Patrick Sénécal?
Non, les idées, ça va. Trouver les idées, ça va.
Ouais.
Ce qui est dur, c'est d'écrire le premier. Ben, c'est toujours. Là, j'en ai pas d'idée pour mon prochain roman. Ben, j'en ai une, mais elle est en train de se former tranquillement. Mais ça me stresse pas. J'en ai toujours des idées. C'est pas stressant. Mais l'écriture du premier jet, le premier jet, la première version que tu fais, ça, je trouve ça tough. Ça, je trouve ça très tough. Ce que j'aime, c'est le retravailler après, de le recommencer, de revoir les phrases. Parce que tu travailles sur quelque chose qui existe déjà. Tu sais, c'est comme construire une maison là, ou un tunnel. Là. Tu donnes des coups de pioche dans la terre. Là.
Ouais.
C'est top, les coups de pioche, de creuser dans le nouveau. Mais après ça, de décorer ton tunnel, décorer ta maison, décorer. Ça, c'est le fun parce qu'elle est finie, ta maison. Là. Elle est faite. Tout ce qui reste à faire, c'est l'améliorer. Ça, c'est la partie que moi, personnellement, j'aime le mieux. J'ai des amis écrivains qui détestent retravailler leur roman. Ils détestent ça. Moi, c'est ça que j'aime le plus.
OK. Puis est-ce que vous impliquez d'autres personnes que vous dans le processus?
Ben, c'est-à-dire, quand il y a des recherches à faire, oui. J'ai un
Ouais.
policier qui m'aide quand il y a des trucs de police. J'y envoie des questions, puis il me répond à mes questions. C'est un policier à la retraite là, qui a travaillé pour la SQ pendant des années. Fait que ça, c'est bien utile. Mais quand j'ai fini, mettons, mon deux, troisième jet, là, je commence à le faire lire à du monde. Je le fais lire à ma blonde. En fait, c'est moi qui lui lis. Elle aime ça quand je lui lis à voix haute. Je le lis à ma
Ah,
blonde.
ouais.
J'ai deux lecteurs aussi, Olivier puis René, qui lisent mon manuscrit, puis qui me disent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis mon éditeur, évidemment. Fait que ces quatre personnes-là, c'est beaucoup sur eux autres que je me fie pour améliorer mon livre. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils me disent, mais très souvent, ils ont des commentaires. La plupart de leurs commentaires sont très pertinents. Puis surtout quand les quatre te disent la même affaire. Si les quatre sont censés être consultés, te disent « Cette scène-là, là, je trouve qu'elle marche pas. » Ben là, il faut avoir l'humilité de dire « Ben, ils ont peut-être raison. »
Ah, j'aime ça. Parfois, vous pouvez rentrer en débat avec eux. Puis, en fait,
Oui, absolument. Tout à
le
fait.
processus, c'est
Tout à fait.
l'amélioration de
Ouais.
l'écriture. OK.
Exact.
J'aime ça. J'aime ça. Puis, est-ce que c'est une torture pour vous de vous faire challenger parce que vous voyez
Non.
les choses d'une façon, vous avez
Non.
écrit l'histoire, puis
Ben,
là.
moi, je veux me faire challenger. C'est sûr que quand
Ouais.
ça t'arrive, tu fais, ah, tabarnak, je pensais qu'elle était bonne, ma scène, là, peut-être t'es un peu déçu. Mais en même temps, si les quatre me disaient, c'est bon, tout est bon, on touche à rien, c'est bon, je ferais, ça se peut pas. Ça se peut pas. Moi, je crois pas à ça, là. Il y a toujours des affaires à améliorer. Fait que moi, si je me fais dire. C'est bien flatteur de se faire dire tout est beau, mais c'est pas pour ça que je fais lire mon roman, c'est parce que je veux que vous me. C'est ça, je vais être challengé, même si c'est de la job, même si des fois c'est frustrant, tu sais que tout ça est au service du livre. Tout ça est pour que le livre soit meilleur. Fait que moi, ultimement, c'est ce que je veux, là.
Donc, ce que je comprends aussi, Patrick Sénécal, c'est que vous refusez de faire du travail à la chaîne. Vous, ce que vous voulez, c'est de sortir un livre, qu'il soit exceptionnel, qu'il soit lu, qu'il soit apprécié, qu'il soit gardé dans les bibliothèques aussi, parce que bien souvent, il y a malheureusement des livres qui se retrouvent dans le recyclage. Je trouve que
Oui, ouais.
c'est une
Ben,
tragédie.
je veux qu'il soit le meilleur possible
Ouais.
avec les capacités que j'ai. Je veux dire, je n'ai pas la prétention de faire des livres exceptionnels. Je n'ai pas la prétention de faire des livres qui vont rester dans l'histoire. Ce n'est pas moi qui vais décider ça de toute façon. Moi, ce que je veux, c'est donner mon 100% à moi. Puis le travail à la chaîne, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, dans le genre que je fais en plus, là, du roman d'horreur, du roman thriller, du roman suspense, du roman noir, bon, appelons ça comme on veut, c'est quand même assez facile de tomber dans une espèce de reproduction des mêmes façon d'écrire, la même façon de faire une grille, une structure. Tu sais, il y a des gens en horreur qui écrivent ou en policier même, ça fait 25 ans qu'ils écrivent le même roman, dans le fond, là, la même structure, ça devient prévisible. Moi, je veux pas ça. Je veux pas donner le AC/DC de la littérature.
C'est très bon, très bonne remarque.
50 ans qu'ils font le même disque. Moi, c'est ça, j'ai le goût de... Oui, ça va toujours être noir, toujours être sombre, mais je veux sortir à chaque fois de mon pattern un peu, puis me challenger avec des nouvelles façons de raconter, des nouveaux thèmes, etc. Ouais.
Quand vous avez écrit 51-50 rue des Ormes, là, l'idée vous est venue comment? Parce que bon, 51-50 rue des Ormes, c'est un livre, ça a été adapté au cinéma par la suite. L'idée vous est venue comment?
C'est mon premier roman que j'ai écrit. Ça vient d'un poster d'un film, imaginez-vous. C'est le poster du film Texas Chainsaw Massacre 2. La suite qu'ils ont faite en 1981-82, je ne sais pas trop, non, pas vrai, 91, en tout cas, ça fait un bout. Ils ont fait une suite il y a longtemps qui est tombée dans l'oubli complètement. Ils ont même fait un part 2 après qui remplace le vieux part 2 dont je parle en ce moment. Ça montre comment il était mauvais. Ouais. Puis le poster, c'était une espèce de poster qui riait de le poster de Breakfast Club, là, où ils sont tous placés comme une photo de famille. Ouais. Qu'on prend chez Sears, mettons. Donc, c'est les membres de la famille de Texas Chainsaw Massacre, le gang de Failey. Ils posent comme une photo de famille, mais tu vois qu'ils sont tous fous, là. Ils sont tous des cinglés, avec l'autre avec sa chainsaw, comme s'il y avait une fleur, tout ça. Puis je me suis dit, c'est intéressant, ça rit des familles conventionnelles. Eux autres, ils pensent qu'ils sont une famille normale, mais ils sont complètement cinglés. Et ça m'a donné l'idée de faire un roman sur une famille de cinglés qui pensent qu'ils sont normaux, mais qui ne le sont pas, et qu'on découvrirait ça à travers les yeux de quelqu'un qui se fait kidnapper par cette famille-là. Fait que ça vient vraiment d'un poster, puis tous mes romans comme ça, je sais qu'il y a un élément déclencheur, puis c'est jamais la même chose. Des fois, c'est un poster, des fois, c'est un personnage, des fois, c'est une scène que j'ai vue dans la rue, des fois, c'est un mauvais film que j'ai vu, puis je fais, c'est de valeur, l'idée était bonne, on pourrait faire ça mieux. Fait que chaque roman a son point de déclencheur complètement différent.
Puis comment on détermine un bon méchant?
En fait, il ne faut pas le voir comme un méchant. Je pense qu'il faut le voir comme un personnage. Je pense que plus que tu veux faire un méchant, plus qu'il risque de tomber dans la caricature. Fait que quand j'ai des personnages, puis j'en ai des méchants dans mes romans, je sais que j'ai des personnages qui sont considérés comme des méchants, mais je me dis toujours, pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu comme ça? Qu'est-ce qui fait? Et là, j'invente une psychologie qui va être plus intéressante que juste le méchant qui se réveille le matin et qui fait « Je veux faire le mal car je suis mauvais. » Ça, je ne trouve pas ça très intéressant comme personnage. Et même souvent dans mes personnages, le méchant et le bon peuvent être le même. Le passager, c'est ça. Les 7 jours du Stallion, ça devient quasiment ça à un moment donné. Ouais. Le justicier devient comme un peu trop fou. Fait que j'aime quand mes personnages se battent contre eux-mêmes. Ou souvent, quand ils se battent contre un méchant, le méchant va souvent révéler chez mon héros sa propre part d'ombre. Et ça, j'aime le gris. J'aime pas le bon contre le méchant. J'aime que tout ça soit mêlé. Je trouve que ça va être des personnages plus complexes puis plus épeurants, justement.
Puis est-ce que vous déterminez la psychologie de ce personnage-là avant d'écrire votre livre ou vous la déterminez au fur et à mesure de l'écriture?
Il n'y a pas grand-chose d'inventer au fur et à mesure dans mes romans. C'est pas mal prévu. Pas les détails, mais les grandes lignes, là. Ouais. C'est moi, j'ai un 5-6 pages. Dans chacun de mes romans, je me fais un résumé de 5-6 pages qui passe à travers le roman au complet. Évidemment, surtout la fin. La fin, je sais vraiment comment ça va finir. Évidemment, en cours d'écriture, tu peux te permettre de changer des affaires, sinon ça serait plate. Là. Je peux dire, ce que j'avais prévu là, finalement, ça marche pas, je vais le changer un peu. Mais grosso modo, là, c'est comme partir en voyage, là, mon plan de voyage est fait. Là. On va aller là, dans telle ville. Bon, une fois sur place, ça se peut que tu fasses ça. On va faire un détour par cette ville-là. Il m'a resté 2 jours de plus que prévu. Finalement, je vais skipper cette ville-là, m'en laisser à la côté. Mais tu as quand même un plan de voyage, tu sais, qui est assez précis. Pour moi, c'est un peu comme ça que j'écris aussi.
Puis, y a-t-il un personnage qui vous a donné plus de fil à retordre que d'autres à déterminer?
Ouf! Ben, c'est une bonne question. Florence, dans Flo, la petite fille de 8 ans, elle n'a pas été facile parce que c'est un roman, justement, la narratrice, c'est une enfant de 8 ans. Puis, je vais montrer que c'est une psychopathe un peu sans qu'elle le sache elle-même qu'elle a des problèmes de santé mentale. Fait que de rendre une petite fille de 8 ans qui va tuer des gens, rendre ça crédible, c'était pas simple. Je ne fais pas en faire non plus une petite fille qui saute du monde avec un couteau et qui poignarde le monde. Ça n'a pas d'allure. C'est un enfant de 8 ans. Tu pognes par les épaules puis tu la jettes, tu fais comme toi une heure. Fait que fallait quand même rendre ça plus crédible. Elle est plus dans la défense que dans l'attaque. En tout cas, bref, ce personnage-là était simple, était compliqué parce qu'il fallait que je me mette aussi dans la psychologie d'un enfant de 8 ans. Ça, ma blonde qui est psychologue, elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle a travaillé avec des enfants. Fait que oui, ça, c'est un personnage. Il dit, si le monde ne croit pas à cet enfant-là, tout le roman est basé sur le fait qu'il faut qu'on croie à cette petite fille-là. Si le monde n'y croit pas, le roman, il est foutu. Il ne tient pas la route. Fait que oui, ça a été assez complexe à préparer.
Puis, au même titre, quand il y a des films qui sont adaptés de vos livres, est-ce que vous êtes impliqué dans le processus d'embauche des acteurs? Prenons, vous l'avez nommé tout à l'heure, Les Sept jours du Talion.
Oui.
Bruno Hamel, qui est joué par Claude Legault. J'aurais pas vu quelqu'un d'autre jouer ce rôle-là que Claude Legault.
Non, mais là, c'est pas de réalisateur. Un de ses acteurs fétiches, c'est Claude. Ouais. Legault, il adore tourner avec lui. Fait que dès le début, il m'a dit, moi, je verrais bien Claude là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais dire, ben, moi, Claude Legault, go. On est en business, là. On est en Cadillac, là. Pas de problème. Mais oui, il me demandait, les réalisateurs me demandent leur avis. Moi, j'écris le scénario en plus, donc je suis impliqué directement. Puis même dans Les Sept jours du Talion, Martin Dubreuil, celui qui fait le gars qui se fait torturer,
ouais,
c'est moi qui l'ai proposé. J'ai dit, écoute, pote, j'ai un comédien qui s'appelle Martin Dubreuil, je pense qu'il serait bon en tabarnouche, parce que je le connaissais, puis on avait déjà jasé, moi puis lui. Puis que pote, il a dit, OK, on va l'auditionner, on va voir. Pote, il était ouvert à ça, ils l'ont auditionné, puis ils ont fait tabarnouche, oui. Même notre productrice, Nicole Robert, était là, oh, je suis pas sûr, il est pas très connu, nanana. Puis quand elle l'a levé en audition, en fait, ouais. Ah, ça va être difficile de se lamber de la tête, lui, à cette heure.
Non, le casting, que, la distribution
comment?
Était juste hallucinante. Là. Rémi oui. Girard aussi, qui
oui,
était...
Oui,
qui
était oh, ben, c'est ça. J'ai été gâté là, sur les acteurs dans les films qu'il y a eu sur mes romans. Franchement, là, j'ai été très gâté.
Puis, c'est déjà arrivé qu'on a mis un acteur dans un de vos personnages, puis vous vous êtes dit, tabarouette, j'y crois pas, puis finalement, boum, ça a fait le contraire de ce que vous pensiez?
Ben, Patrick Huard, à l'époque, qui joue dans Sur le seuil, qui ouais. fait... Là, on sait tous que Huard, c'est un maudit bon acteur, mais ouais. à l'époque, il commençait à sortir un peu de la comédie pour vouloir montrer qu'il était capable de faire autre chose. Il avait fait juste un autre rôle dramatique, c'était Talk Radio, qui avait fait un espèce de téléfilm avec ça. Mais sinon, il était encore beaucoup associé à l'humour. Et quand on nous a proposé Huard pour faire le rôle du méchant, donc il faut qu'il soit très sérieux, mais méchant, plus victime que méchant, parce que on s'est dit, moi et Eric, le réalisateur, on fait « Huard, il acceptait-tu de faire une audition? » Puis il a accepté de faire une audition, et quand il est arrivé à l'audition, c'est vraiment pendant l'audition qu'il nous a mis, qu'on a fait « Oh, OK, il prend ça au sérieux, puis il est vraiment bon. » Mais avant l'audition, c'était pas gagné. Dans ma tête, j'étais là, Huard, dans le rôle de roi, de Stéphane Roy, non, j'étais pas convaincu. Mais il nous a fait une audition de fou, vraiment, là. Il était super bon, ouais.
Quand vous vous promenez avec vos livres, bon, j'imagine que vous avez été quelques fois en Europe, là, est-ce que les lecteurs sont bien différents des lecteurs que vous avez au Québec, au Canada?
Non, non, c'est ça qui est assez capoté, en fait, c'est que, mettons, mais j'en ai pas autant qu'au Québec, là, mais mes lecteurs belges, mais tu sais, j'arrive de la Suisse, là, j'étais allé dans un salon du livre en Suisse là, il y a 2 semaines à Genève. Puis ceux qui viennent me voir, les raisons qui sont contents de me voir, les raisons pour lesquelles ils aiment mes romans, les questions qu'ils me posent sur mes romans, c'est exactement la même chose qu'ici. Il y a quelque chose d'universel dans l'histoire d'horreur, dans l'histoire de peur, dans l'histoire de thriller. Ce qui est universel de ça, c'est pas la culture, c'est pas le thème, c'est l'idée de se faire raconter une histoire qui va nous stresser. Et ça, je pense que dans n'importe quel pays, c'est ça qu'on veut à travers ce genre d'histoire-là. C'est pas le côté politique. Il peut avoir le politique en plus, la culture, il peut avoir tout ça, mais à la base, ce qui fait que le monde est excité ou non quand il lit une histoire, ça, manifestement, c'est pareil partout. En tout cas, si je compare aux réactions que j'entends, c'est vraiment universel comme envie le trailer fonctionne pareil dans l'esprit de tout le monde.
Ah oui, voyez-vous, je savais pas ça. Puis est-ce qu'il y a des publics qui sont peut-être un peu plus exigeants envers un Patrick Sénécal?
Ben, un peu. C'est-à-dire que, ce qui est drôle, c'est que les gens qui me lisent depuis le début, ces gens-là, oui, ont des attentes. Ils ont des attentes, puis c'est drôle, il faut être à l'écoute de ces attentes-là, mais en même temps, il faut faire attention, parce que il y en a là-dedans, c'est qu'ils vont dire « étonne-moi, parce que là, tu fais 20 romans, je dis « toi, je veux que tu m'étonnes ». Fait que ça, c'est une bonne simulation.
Ouais.
Stimulation, voyons. C'est bon, puis ça me donne le goût, justement, de sortir de ma zone de confort. Mais il y en a qui me disent depuis le début, puis qui me disent « j'ai hâte que tu fasses un autre roman comme Hell.com. J'ai hâte que tu fasses quelque chose d'aussi trash que Hell.com. » Ça, je veux pas écouter ça. Je veux pas écouter ça, parce que là, je veux répondre à une attente qui est pas liée à l'œuvre, mais à un plaisir qu'ils ont eu et qu'ils veulent avoir encore. Moi, je n'ai pas à faire un autre roman comme Elle.com parce que justement, ça serait trop facile. Alors moi, je veux faire autre chose. Fait que d'un côté, il faut que j'écoute mes fans qui exigent de moi de me renouveler, mais sans tomber dans le piège de dire « Fais une suite à Alice, fais un autre roman comme Elle.com, ramène tel personnage. » Sinon, là, je fais de l'écriture sur demande, puis c'est pas ça. Un artiste n'a pas à faire ça. Fait qu'il faut que je trouve l'équilibre là-dedans, en fait.
Y a probablement des auteurs qui nous écoutent ou de futurs auteurs qui nous écoutent. C'est quoi la recette idéale? Bon, Patrick Sénécal a sa recette. Ça fonctionne bien pour lui au Québec. Ça fonctionne bien pour lui en Europe. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un puisse bien fonctionner au Québec puis pas pantoute en Europe? Est-ce qu'un livre au Québec qui est écrit, qui est traduit en anglais peut bien fonctionner aussi aux États-Unis? Le succès au Québec, est-ce qu'il va déterminer automatiquement un succès aux États-Unis?
Ben, tu vois, tu dis recette, mais dans mon cas, il n'y en a pas de recette. J'en veux pas de recette. T'sais, je ne veux pas suivre une recette. Puis si elle existait, la recette, tout le monde la ferait puis tout le monde pognerait. Fait que c'est là que tu vois que qu'est-ce qui fait pourquoi justement j'ai tant de succès au Québec puis que j'en ai quand même pas mal moins en Europe. Ceux qui me lisent en Europe, ils aiment ça, mais il n'y en a pas tant qui me lisent en Europe comparé ici. Mais c'est parce qu'ils ne me trouvent pas, parce qu'ils ne savent pas que mes livres existent, parce qu'ils sont mal distribués, parce que. Moi, il y en a plein qui me disent « Ah, oh, on va dans les librairies à Paris. Ouf, vous n'êtes pas facile à trouver. Hein? » Fait qu'il y a, il y a plein d'éléments qui échappent à l'auteur. Moi, je trouve qu'il y a des écrivains qui sont meilleurs que moi au Québec, là, puis qui vendent bien moins que moi. Là. Pourquoi? C'est très dur à dire. Il y a un mélange de... Oui, j'espère que ça prend un peu de talent quand même. Là. J'espère que j'ai un peu de talent, mais il y a aussi le moment qui est arrivé, le bouche-oreille, il y a tellement d'éléments que tu ne contrôles pas qui font qu'un roman... va marcher ou pas, que je serais très prétentieux de prétendre que moi, je vends beaucoup parce que je suis un des meilleurs auteurs du Québec. C'est pas vrai, ça. Moi, je refuse de croire à ça. Il y a des auteurs qui pognent et c'est vraiment pas bon ce qu'ils font. Je nommerai pas personne, là, mais j'ai nommé quelqu'un qui est pas au Québec. Fifty Shades of Grey, là, ça a été un succès de fou. Là.
Un succès monstre.
C'est un très mauvais roman. Je suis désolé, là, mais moi, c'est pas bon, là. Après ça, le monde a droit d'aimer des affaires pas bonnes. Moi, il y a des films pas bons que j'aime parce que j'ai du fun. Bon, c'est un plaisir coupable, puis go! Il y a des tunes pas bonnes que j'aime, là, tu sais. Mais on peut pas dire que Fifty Shades of Grey est un des plus grands romans du 20e siècle parce qu'il a vendu un... Non, c'est vraiment pas très bon, mais pourquoi à ce moment-là, ça a répondu à tel besoin, à tel... Je sais pas. C'est... L'autrice elle-même doit se dire qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que ça a pogné, cette affaire-là? Fait que moi, je peux pas m'asseoir là-dessus en disant j'ai compris quelque chose que les autres auteurs n'ont pas compris. Ça marche pas de même. Fait que le succès est quelque chose d'extrêmement incompréhensible. Et moi, il faut que je me rappelle de ça parce que les seules personnes qui décident si j'ai du succès ou non, c'est les lecteurs et les lectrices. Le jour que les gens vont décider de ne plus me lire parce qu'ils n'aiment plus ça, je ne pourrai pas rien faire contre ça. Que j'aie du talent ou pas, que je sois bon ou pas, c'est le monde qui décide. C'est les lecteurs et les lectrices qui décident. Ça, c'est ce qui est cruel. C'est ce qui est... Ça peut être le côté cruel de ce milieu-là, de ce métier-là, en fait.
Est-ce que le futur du livre vous inquiète? Moi, je vais vous dire franchement, ça m'inquiète beaucoup. Les librairies tendent à disparaître de plus en plus dans mon secteur. Je trouve ça catastrophique. Heureusement, on a des belles grosses bibliothèques, là, que ce soit à Montréal ou encore à Québec, où on peut découvrir de nouveaux
auteurs. En fait, ce qui disparaît, c'est les petites librairies indépendantes au profit des grosses librairies. Mais ça, c'est pas juste en littérature, c'est en tout, là. Je veux dire, les gros supermarchés dessus, les petits magasins. Bon, ça a toujours été comme ça. Amazon est en train de tuer le commerce de détail. Bon, c'est ça, le livre n'échappe pas à ce rouleau compresseur-là. Mais le livre va toujours exister. Ça fait 50 ans qu'on prédit la fin du livre. On a prédit la fin du cinéma quand la télévision est arrivée. Il y aura toujours des gens, je pense, qui vont aimer les livres. Là, il y en a qui lisent à la place des livres numériques. Aucun problème avec ça, moi. Je veux dire, c'est le même livre, c'est le même auteur. Je fais pas moins d'argent parce que quelqu'un achète mon livre numérique.
Mais il y a quelque chose de pas pareil. Il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas...
Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que toi et moi, on fait partie de la génération qui avons connu les livres avec des vrais livres.
Ouais.
Mais les kids de 10-11 ans qui vont lire des livres de numérique, eux autres, un livre papier, ils vont s'entorcher. L'important, c'est qu'ils lisent. Comprends-tu? Moi, je suis pas capable de lire numérique, mais... Quelqu'un qui vient me voir et dit hey, « Je m'excuse, j'ai acheté ton livre numérique. » Je fais « Pas de problème. C'est bien, 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 bien cool. » L'important, c'est que le livre, en tant que quantité, pas nécessairement physique, mais en tant que concept, continue à exister. Est-ce que les gens lisent moins qu'avant? Oui, les gens lisent moins qu'avant. Ça me fait un peu plus peur. Ils n'arrêteront pas complètement de lire, mais un peuple qui lit de moins en moins est un peuple qui, à mon avis, va de moins en moins être capable de développer, de défendre ses idées. Comme je disais tantôt, la langue, c'est une force, c'est une arme. Fait que si tu lis moins, ben, ton esprit d'analyse va aussi s'amoindrir. Ça, c'est quelque chose qui peut m'inquiéter un peu.
Ah, puis j'ai initié mon enfant qui avait des difficultés en français. Je l'ai initié à la lecture avec un livre papier. Puis curieusement, parce qu'il s'appliquait à lire un 20 minutes, 30 minutes par jour, son français écrit et son français en lecture s'est grandement amélioré à l'école. Puis c'est pas magique, là. C'est juste qu'on l'obligeait à lire un 20, 30 minutes par jour. Mais mon point de vue sur les petites librairies, c'est que souvent, c'était les propriétaires qui étaient là ou vraiment des passionnés. Puis si j'avais à rentrer dans cette librairie-là, puis je disais Patrick Sénécal, ben on me disait ouais, c'est là. Puis son dernier qui vient de sortir, c'est celui-là. Puis si j'avais un de ceux à te conseiller, c'est celui-là.
Ouais.
Fait que là, moi, je pouvais faire confiance à ce propriétaire-là qui, lui, lisait à peu près tout ce qu'il y avait dans place. Dans les grosses chaînes, ça devient de plus en plus difficile de trouver de bons lecteurs qui vont bien m'aiguiller sur le livre
en fait,
à lire.
C'est le métier de libraire qui est en train de...
Exact.
Être un libraire, c'est un vrai métier. Là, des fois, dans les grosses chaînes, il y en a quelques-uns des vrais libraires, mais il y a aussi des étudiants qui font une job d'été là, puis qui ont peut-être lu 5 livres dans leur vie avant d'avoir cette job-là. Fait que ça, c'est un autre problème. Ouais.
Exact. Est-ce que vous avez le sentiment d'imposteur? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, ben moi, je connais plein d'écrivains au Québec qui sont meilleurs que moi puis qui ont moins de succès. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire, Monsieur Sénécal, je trouve que vous êtes le meilleur écrivain dans le monde entier, avez-vous de la misère avec ce commentaire-là?
Ben, tu sais, la personne a dit « je trouve que ». Fait que moi, si quelqu'un dit « je trouve que », je dis « ben, merci beaucoup ». J'ai dit « t'as le droit de penser ça ». J'ai dit « il y a plein d'autres écrivains qui sont très bons et qui sont meilleurs que moi, mais toi, si pour toi, je suis le meilleur écrivain, j'ai pas à juger ça. J'ai pas à juger le fait que quelqu'un trouve que... Si quelqu'un dit « c'est vous que j'aime le plus comme écrivain », je ne vais pas le turner off et dire « ben non, c'est pas moi, t'as tort ». Mais si quelqu'un dit « t'es le meilleur écrivain au monde, il n'y a personne de meilleur que toi », moi, je dis « un instant, là, time out, là. Tu peux trouver ça, mais je te jure qu'il y a un paquet d'écrivains qui sont bons et qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Ouais. Après ça, toi, que ce soit moi ton préféré, je vais respecter ça. » C'est pas de la fausse modestie, c'est pas de l'imposture, c'est de relativiser les choses. C'est juste que... Le jour que tu te penses trop bon, c'est dangereux. C'est dangereux de se trouver trop bon. C'est dangereux de croire que tu es le meilleur parce que c'est jamais vrai. Il n'y en a pas un meilleur, il n'y en a pas un. Puis moins, plus que tu te trouves bon, moins tu vas avoir un esprit critique vis-à-vis de ce que tu fais. Fait que c'est ça. Moi, je me méfie de ça. Je ne veux pas tomber là-dedans. C'est un piège, en fait. Se trouver trop bon, c'est un piège. Je veux pas tomber dans l'inverse non plus, dire « mais non, je suis pas bon, je suis juste chanceux, ce que j'écris, c'est de la merde. » Mais non, j'ose espérer que si j'ai tant de succès, c'est parce que ce que j'écris n'est pas payé quand même. Là.
Ouais.
Mais je pense qu'entre trouver que t'es poche, puis entre trouver que t'es le meilleur, il me semble qu'il y a quelque chose de sain entre les deux. Là.
Mais ça vous fait du bien quand un lecteur vient vous voir et puis vous dit « Patrick, moi, t'es mon auteur à moi. »
Évidemment, wow. Je connais pas un auteur, un artiste qui peut pas triper de se faire dire ça. C'est sûr que c'est flatteur. Tu vois, dans le salon du livre, le monde fait la file pendant une heure pour venir te dire que t'es fin, t'es beau, t'es bon, t'es le meilleur. Tu sors de là, puis tu reviens chez vous, puis tu veux écrire en tabarnouche, parce que là, ils viennent de te remplir les batteries. Tu sais, c'est rare que quelqu'un va attendre en file une heure et te dire « ton dernier roman, c'est de la merde ». C'est pas ça qui arrive en général. Ils viennent te voir pour te dire qu'ils t'aiment. Fait que c'est sûr que tu sors de là, puis t'es boosté d'énergie. Puis là, ce que tu veux faire, c'est pas dire « ah, c'est vrai que je suis le meilleur ». Ce que je veux faire, c'est leur dire « moi, vous montrer, vous m'aimez, je vais vous donner raison de m'aimer, je vais vous faire un maudit bon roman. Checkez bien ça ». C'est ça l'effet que ça fait, en fait.
Patrick Sénécal, c'est qui ses auteurs préférés?
C'est pas nécessairement des auteurs de genre. C'est pas nécessairement des auteurs qui font de l'horreur et tout ça. Parce qu'on dirait que j'en ai des auteurs de genre que j'aime. T'sais, j'aime Denis Lehane, j'ai aimé Stephen King pendant longtemps. J'aime Andrea Michaud qui fait du roman policier au Québec que je trouve extraordinaire. Mais on dirait que les écrivains que j'admire le plus, c'est des écrivains que je sais qui font des choses que moi, je serais pas capable de faire. C'est un romancier comme Romain Gary, un romancier comme Émile Zola, une romancière comme Sarah Waters. Ces auteurs-là, je les admire parce que quand je les lis, je fais Marquès. Ils font des trucs que je fais tabarnouche. Comment comment tu peux écrire une affaire de même? Et c'est là que je deviens méga admiratif et que je ne comprends pas qu'un être humain puisse écrire des choses de cette manière-là, parce que moi, je ne serais pas capable. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ces écrivains-là qui font des choses qui sont hors de ma portée complètement, complètement, complètement.
Okay. Rendez-moi ça concret, M. Sénégal. Monsieur Sénégal, quand vous voyez un auteur, puis là, vous dites, moi, je suis pas capable de faire ce que lui, il fait, c'est quoi concrètement?
Pour le ben, mettons Romain Gary. Ouais. Mettons Romain Gary, bon, il est mort, il s'est suicidé en 1980. Mais son écriture, premièrement, la force de cette écriture-là, la façon qu'il a d'écrire, les émotions qu'il réussit à émettre grâce à l'intelligence de son style, ça, je suis incapable d'écrire comme ça, puis il est le seul qui écrit de cette manière-là. C'est qu'il y a un style qui est à lui, qui est unique à lui, juste dans l'écriture. Il y a quelque chose qui appartient, puis ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à développer en écriture, quand tu es un romancier, d'avoir ton style, c'est-à-dire que tu peux donner une page de Romain Gary, donne-moi une page, puis que je ne sais pas qui l'a écrit, puis dis-moi à quel auteur ça te fait penser. Je suis pas mal sûr que je serais capable de dire « ça fait pas mal du Romain Gary ». Mais ça, c'est tough. Okay. C'est tough pour un auteur d'en arriver à avoir un style aussi facilement identifiable. Fait que lui, il a ça.
Parce qu'il y a de l'ADN dans l'écriture d'un auteur?
Oui, oui. Oh, ouais. Parmi les meilleurs, oui. Les meilleurs auteurs, c'est ça qui réussissent à faire. Moi, je suis pas sûr que j'ai ça. Je suis pas sûr qu'il y ait un style si unique à Patrick Sénécal dans l'écriture. Je parle pas dans les thèmes. Dans les thèmes, oui, je pense qu'on peut dire « ah, ça fait très Patrick Sénécal de parler de ça ». Mais de prendre une page, donner ça à quelqu'un et dire « ça te fait penser à quel écrivain », pas sûr que ben du monde qui dirait « oh, on dirait du Patrick Sénécal ». Je suis pas sûr que j'ai un style assez précis pour ça. Et ça, je trouve que les plus grands écrivains, ils ont ça. Comme Alfred Hitchcock dans le cinéma, tu regardes une scène d'Alfred Hitchcock, la manière qu'il filme, tu fais « ça fait Alfred Hitchcock en tabarnouche ». Tu sais, quand tu réussis à développer ça, je trouve que là, t'as un style qui est à toi. Là.
Je comprends très bien. Ce soir, on a le plaisir d'être avec l'auteur-écrivain Patrick Sénécal. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Les raisons qui poussent les gens à aller aux urnes, ça leur appartient. Ça peut être un député du coin qui a été président du syndicat de Leubouette puis qui a sauvé le job. Pour moi, ça, c'est pas un mauvais vote.
Ça serait un test de QI pour aller voter.
Ah, mais non,
là,
ça
je suis vraiment pas d'accord avec toi. Je trouve que tu pousses la note trop loin.
Tu sais quoi? On va rester dans notre marde pour des décennies et des décennies. Mais la personne qui dit « moi, je vais voter contre la CAQ, puis tiens, je vais prendre les libéraux », je peux pas avoir de respect pour ça. Là.
Ben moi j'en ai. Écoute, je répète que j'adore cette tribune-là, parce que clairement, on n'est pas tous d'accord. Mais je pense qu'on est capable d'échanger. Ben là, quand tu vas arrêter de sacrer, là, puis que tu vas écouter nos arguments.
Vive le Québec libre!
Le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Cette année à Pâques, le chocolat passe au niveau supérieur chez Croque-en-Bouche. Laissez-vous surprendre par le talent de notre chocolatière Amy. Le Croque-en-Bouche, passionnément gourmand.
Exceptionnellement, on prolonge Papillon en fête chez Jardin Amel. Vous n'avez pas encore plongé dans la jungle? Une serre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. Ouvert cette semaine de 9h à 16h30 et ce week-end de 8h à 17h30. Dernière chance jusqu'à ce lundi seulement.
Chez Desharnais, ce sont de vrais mécaniciens de famille. Des gens de confiance de génération en génération. Et ça, c'est juste parfait. Parfait pour la mécanique, pour les pneus. En fait, pour un véhicule en santé.
Du 20 avril au 3 mai, obtenez un rabais instantané jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Toyo Tires sélectionnés. Une offre exclusive .s. Toyo Tires, pour un plus haut degré de sécurité. Détails et rendez-vous en ligne sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
J'ai vu ton historique sur Internet.
Je peux expliquer?
T'es accro?
Ben, c'est ce que...
Yeah, fais-toi-en pas. Moi aussi. Check les offres cette semaine sur mercado.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ à la clinique de sécheresse oculaire. Et un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à 250 $ chez 1-800-GOT-JUNK.
Oh oui, c'est ça que je disais. Mercado.
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
Tu fais du commercial, mais t'es tanné de jouer petit? Télio Assurance cherche un courtier producteur en assurance entreprise. Ici, tu bâtis, tu développes, tu performes. Ton portefeuille, tes clients, ton impact. T'as de l'expérience, de la drive et t'aimes sortir du lot? Parfait! Télio veut te parler. Équipe solide, support réel, croissance concrète. Travail flexible, bureau Québec ou Lévis. Prêt à passer au prochain niveau? Écris-nous à rhacommercialtelioassure.com. Aux Immeubles Roussin, on construit pour durer. Et ça commence avec notre équipe. Deux postes clés à combler. Technicien comptable senior et conseiller principal en développement et location commerciale. Une carrière solide vous attend. Postulez au immeubleroussin.com.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Le scénariste, réalisateur, dramaturge, écrivain de fantastique, d'horreur et de romans policiers québécois, Patrick Sénécal, passe la soirée avec nous. Monsieur Sénécal, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci d'être là, c'est bien sympathique de votre part.
Merci de l'invitation, c'est très agréable.
Vous écrivez souvent, vous faites le tour du Québec, vous revenez d'un voyage en Europe. Là, il va y avoir un salon du livre de Québec, si je ne me trompe pas, c'est dans 2 semaines à peu près.
Oui.
Est-ce que
oui.
Vous allez aller faire un tour?
Ah oui, oui, je suis là, j'arrive le jeudi, puis je pars le dimanche. Oui, absolument.
C'est-tu demandant pour vous, ce genre d'événement-là? Parce que je veux pas, il y a plein de gens qui viennent vous jaser, fait que c'est une multitude de sujets à discuter. Puis,
Oui, mais moi, j'adore les Salons du Livre. Là. Je suis un fan de Salons du Livre. Je veux dire, j'écris autant pour le plaisir d'écrire que pour la chance de faire des Salons du Livre après. Moi, Moi, tu sais, je suis un gars qui est très social, puis j'aime ça les parties, j'aime ça voir du monde, j'aime ça les soupers en gang, tout ça, puis écrire, c'est un travail solitaire. Fait que tout le côté social qu'apporte les Salons du Livre, pour moi, c'est bien important pour mon équilibre. Je vais rencontrer des collègues, oui, je fais le party, puis tout le kit, mais je rencontre aussi des lecteurs, puis pour les écrivains, le seul moment que tu peux avoir... Tu sais, c'est le seul art, l'écriture, que tu peux pas être à côté de quelqu'un pendant qu'il regarde ton œuvre. Tu peux aller regarder un tableau, un peintre peut aller voir les tableaux avec des gens. Le théâtre, l'auteur peut être assis dans la salle pendant que les gens regardent la pièce. Un film, tu peux être assis dans la salle, bon, etc. Tu ne vas pas aller lire un livre à côté de quelqu'un qui est en train de lire ton livre. Tu ne peux pas faire ça. Fait que le seul moment que tu as des réactions des gens, c'est quand tu les vois après et non pas pendant. Et ce après-là, c'est les Salons du Livre. Alors, pour moi, c'est très important d'avoir le feedback des gens. Et en plus, de rencontrer des gens du milieu, de se voir, de faire la fête. Il y a quelque chose de vacances un peu là-dedans. Même si on travaille dans le jour, oui, on signe des livres, tout ça. Mais franchement, je veux dire, quelqu'un qui dit « Ah, oh, c'est pénible de signer des livres », j'ai le goût de dire « Ben, t'es ingrat parce que c'est des gens qui viennent dire qu'ils t'aiment. » Tu sais, ouais. Tu peux pas être contre ça.
Je pense que pour un nouvel auteur, c'est important de faire cet exercice-là parce que souvent, vous allez rencontrer des gens qui ne vous connaissent pas encore, l'occasion de faire découvrir votre livre et tout ça. Puis j'imagine qu'il doit avoir un impact sur les ventes aussi.
Il y a un impact sur les ventes, mais c'est surtout aussi, les gens vont en parler après si t'es fin avec eux autres, puis si t'es cool. Et les gens, ils s'attendent à rencontrer un auteur qui va être gentil. Fait que s'il est gentil, ils vont en parler sur leur... Moi, souvent, ils me prennent en photo, ils mettent ça sur leur page Facebook, leur page Instagram ou TikTok, peu importe. Là. Puis là, ils disent « J'ai rencontré Patrick Sénécal, il a été super fin, il m'a signé un livre, tout ça. » Ça, c'est de la belle publicité en plus, tu sais. Puis, cela dit, tu parlais de jeunes auteurs, de nouvelles... C'est sûr, quand tu es un nouvel auteur, tu vas peut-être pas en vendre beaucoup là, la première fois que tu vas dans le Salon du Livre, mais ça, il faut accepter ça. Moi, mes premiers Salons du Livre... Quand il y avait deux personnes par heure qui venaient me signer un livre, j'étais bien énervé, là, à part mes amis, ma famille. Là. Mais j'ai commencé comme ça. Ben oui. C'est pas. Fait qu'il ne faut pas se décourager. Mon premier livre, oh, j'ai pas eu grand monde aujourd'hui. Ouais, mais là, relax, là, t'es pas connu encore. Mais si tu vas dans le salon du livre, tu vas te faire connaître, par exemple. Puis tu vas rencontrer d'autres auteurs qui vont te parler, qui vont te présenter à d'autres éditeurs, qui vont te présenter à des journalistes, qui vont. Tu te fais un réseau, en fait. Puis on le sait comment ça marche aujourd'hui, les réseaux, c'est important. Puis tu peux faire ça en faisant la fête en même temps. Fait que moi. Pour moi, tout ça, c'est du bonbon, là.
Est-ce que ce serait à l'avantage des gouvernements d'aider justement l'industrie du livre qui a
un peu de difficulté? Il l'aide, hein, cela dit, là. Je veux dire, je ne sais pas qu'il peut en faire plus, mais il l'aide. Je veux dire, tous les éditeurs ont des subventions. Toutes les maisons d'édition ont des subventions du gouvernement. Il n'y a pas de maison d'édition qui pourrait survivre sans subvention. Fait que ça, on l'a. Comme auteur, tu peux demander une subvention pour écrire. Mettons que tu veux arrêter de travailler pendant un an pour juste écrire. Moi, je ne demande pas de subvention. Là, je gagne assez bien ma vie pour ne pas demander de subvention. Ça serait un peu. Je trouverais ça un peu gênant de demander des subventions. Ça va trop bien, mon affaire. Mais un jeune auteur, justement, qui il dit moi, j'arrêterai de travailler pendant un an pour écrire un roman pendant un an. Mais là, tu peux demander des subventions d'écriture. Puis tu peux l'avoir. C'est pas tout le monde qui en a, évidemment, mais déjà que ça existe, c'est quand même pas pire. De pouvoir avoir de l'argent pour écrire. Cela dit, il faut que tu écrives. Il faut que tu leur envoies un manuscrit au bout d'un an. Il faut que tu montres que tu as travaillé. Si quelqu'un dit, m'a pogné le cul pendant un an, il va se faire avoir, là. Fait qu'il y en a de l'aide pour l'écriture. Après ça, est-ce qu'il faut avoir de l'argent plus en culture, pour la diffusion, pour l'encouragement à la lecture? Ça, c'est une autre histoire. Ça, je pense que oui. Ça, je pense qu'il y avait moyen. Mais quelqu'un aujourd'hui qui dit, je peux pas écrire parce que j'ai pas les moyens, ben, il y a des subventions. Il y a ci, il y a ça. Il y a moyen. Puis de toute façon, tu n'as pas besoin de subvention pour écrire. J'ai jamais eu de subvention de ma vie, moi, puis ça ne m'a pas empêché d'écrire. Là. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas mettre ça sur le dos de l'argent, le fait que tu n'écrives pas. T'sais? Parce qu'écrire, ça ne coûte rien, dans le fond. Ça coûte du temps. T'sais? Ça coûte du temps. Fait que ça peut que ça prenne 5 ans à écrire ton livre, mais ça, tu vas l'écrire quand même. T'sais? Fait qu'il y en a de l'aide du gouvernement pour les maisons d'édition et tout ça. Mais maintenant, pour la diffusion de la culture, pour la promotion de la culture, pour montrer que la lecture, c'est intéressant puis c'est important, là, ils viennent de couper. Parce qu'il existe des projets en ce moment, la culture à l'école, tout ça, où que les auteurs peuvent avoir de l'argent pour aller dans les écoles, propager, sont payés pour aller faire la promotion de la littérature dans les écoles et tout ça, ou les sorties scolaires, amener les écoles dans des salons du livre, ça coûte de l'argent, ça. Ça, le gouvernement, récemment, il a coupé dans tout ça, là. Fait que ça, c'est pas une bonne idée. Ça, le message que ça envoie, c'est que la culture, finalement, pour nos jeunes, c'est pas si important.
C'est triste. Oui. À qui revient la tâche pour Patrick Sénécal de vous faire découvrir en Europe ou encore aux États-Unis? D'ailleurs, est-ce que vos livres sont disponibles aux États-Unis?
Aux États-Unis, non. Il n'y a pas eu de... Non, ça, c'est sûrement le pays le plus dur à rentrer parce que tout le monde veut rentrer là. Ben, il faut qu'un éditeur américain s'intéresse à toi. Puis ça, ben, on ne peut pas leur rentrer ça dans la gorge de force. En Europe, tu vois, oui, j'ai des livres publiés en Europe, mais maintenant, il faut qu'ils fassent la... Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que les journalistes en parlent? Est-ce que la maison d'édition en Europe s'arrange pour que tes livres soient dans les librairies? Ça, c'est notre affaire. J'ai été avec deux éditeurs avant en Europe qui n'ont pas fait beaucoup leur job. Là, on va changer d'éditeur encore en Europe. Là, cet automne, on s'en va chez Flammarion, qui est une grosse maison d'édition, puis ils disent qu'eux autres, ils veulent faire beaucoup de promotion puis beaucoup de diffusion. On va voir si ça marche. Mais... En ce moment, c'est des intentions. Là, une fois que le livre va sortir, on va voir si les babines vont suivre les bottines, comme on dit.
Ouais.
Mais c'est ça. Si ton livre est difficile à trouver en Europe, t'as beau être le meilleur auteur au monde, si le monde est pas prêt de le trouver, il n'y a pas grand-chose à faire.
Ouais, puis il y a d'autres façons
de découvrir. C'est ça le nerf de la guerre.
Il y a d'autres façons de découvrir des livres aussi. Bon, prenons Les 7 jours du Talion. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'avait jamais lu du Patrick Sénécal, puis là, tout d'un coup, il voit les films, le film 7 jours du Talion. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit hey, moi, j'ai lu le livre. Là, sérieusement, le livre est encore plus complet que le film que tu as vu. Ben, les gens vont dire « OK, ben, je vais acheter le livre aussi. » Puis là, il va...
Parfait.
Il y a une façon...
Le cinéma, c'est une grosse locomotive. Et maintenant, où est-ce qu'on entend le plus parler de littérature? C'est plus dans les médias conventionnels. C'est dans des balados. C'est ce qu'on fait là.
Ouais.
Regarde, là, quelle émission conventionnelle qu'on peut avoir autant de temps pour parler comme on fait là? Là
ça existe de moins en moins. Ouais.
Puis j'ai des auteurs de mon âge ou plus vieux qui me disent « Ah, je t'ai invité des fois dans les balados, mais... » Je ne vais pas dire un balado. C'est une grave erreur parce que c'est là que ça se passe maintenant. Là.
Ouais.
Moi, la plupart des gens de 40 ans et moins qui entendent parler de moi, c'est dans des balados. C'est sur Internet. Mm-hmm. C'est pas dans la presse écrite. Là. Il n'y a personne en bas de 35 ans qui lit la presse écrite. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je dis que c'est comme ça. C'est ça en ce moment la réalité, là. Tu sais, j'ai bien plus de chances qu'on parle de moi grâce à ce que je suis en train de faire là avec toi que d'un article, un 5 minutes à Radio-Canada, là. Même si j'y vais à Radio-Canada, là, ou le Journal de Montréal, ou la presse, peu importe, là. Je dis oui à tout ça, mais je sais que les balados, ça a un impact en ce moment majeur. Et les auteurs qui refusent ça parce qu'ils pensent que c'est un simple balado, puis ils ne sont pas au courant, manifestement, là. Ben, ils passent à côté de la traque, là, parce que c'est là que ça se passe en tabarnouche.
Je pense que la radio commence à comprendre l'impact de ça. Puis moi, c'est ce que j'avais demandé à mes patrons, là. Je travaille à la radio depuis 2006, puis je voulais un endroit pour pouvoir accueillir quelqu'un, que ce soit un artiste ou un politicien, pendant 60 minutes. Puis autant à Québec qu'à Montréal, on m'a ouvert la porte pour animer ce type d'émission-là. Mais ce qu'il y a d'intéressant, puis ça a un lien un peu avec ce que vous dites, Patrick Sénécal, c'est que si c'est pendant une émission le jour... le moment va exister, mais il va mourir après. Tandis que si je reçois un Patrick Sénécal pendant 60 minutes le soir, puis je le sors en balado, puis je le diffuse aussi en même temps, simultanément, sur les ondes hertziennes, ben, ce balado-là va perdurer dans le temps. Puis quand quelqu'un va vouloir en savoir plus sur Patrick Sénécal, il va cliquer Patrick Sénécal, pouf, il va tomber sur le balado, puis il ne sera pas dépourvu là, au niveau des dates. Il va juste avoir du Patrick Sénécal pendant 60 minutes.
Et 60 minutes, c'est impossible dans les médias plus traditionnels. Là. Ça se peut pas, ça n'existe pas. Là.
Exact.
T'sais? Fait que c'est ça. Ça, c'est la grande liberté, en fait, du balado. Puis il faut maintenant que les médias traditionnels puis la population amènent ça dans l'équation. Ça fait partie de la game maintenant. Puis d'ignorer ça, c'est ramer à contre-courant, là, complètement.
Patrick Sénécal est encore très jeune. Il reste-tu des rêves à attendre?
T'es bien fin. Ouais. Je me trouve pas si jeune que ça. Ben c'est sûr que pour un écrivain, 58 ans, c'est pas si pire parce que tu peux écrire jusqu'à 85 ans. Tu peux écrire en fait jusqu'à mourir. La plupart des écrivains ont écrit toute leur vie, là, parce que tu as besoin d'écrire. Bon, tu écris peut-être que Monique Amoré est rendue à 75 ans. Je n'écrirai peut-être plus un roman par 18 mois, là, mais c'est vrai que pour l'instant... Ben le rêve, écoute, le grand rêve, là, mais en même temps, en ce moment, je ne le fais pas parce que c'est de ma faute, là, c'est à moi de me botter le cul et de faire les démarches pour ça, ça serait de réaliser un film. Ça serait d'être le réalisateur d'un film. J'ai réalisé un épisode de ma série Patrick Sénécal présente. J'ai réalisé quelques épisodes de notre série web La Reine Rouge. J'ai touché un peu à la réalisation, mais réaliser un film, un long métrage... Ça, à partir d'un de mes romans, mettons, ça, j'aimerais bien, bien ça. Mais là, faut pas que j'attende que le monde vienne me cogner à pas dire « Veux-tu réaliser un film, Patrick? » C'est faux. Faut que j'entreprenne une démarche, puis je le fais pas parce que je suis un peu négligent, je suis un peu paresseux, bon, tout ça. Fait que faudrait que... Mais tu vois, plus qu'on me pose cette question-là, plus que ça me donne le goût de m'embarquer, là. Fait que faudrait que je me... Puis je sais quel livre j'aimerais faire en film en plus. Là. Je l'ai, là, mon idée là, en tête. Là. Faut juste que j'aille cogner à la porte de producteur pour leur demander si ça leur tente.
Et je vais vous achaler, c'est quel livre que vous aimeriez
passer à l'écran? C'est pas un mystère. Ça serait Contre Dieu. Ça serait mon roman Contre Dieu qui est bien spécial. Puis qui serait pas trop, comment dire... comme ça serait une première réalisation de film, je vais être prudent, je vais être modeste. Je vais pas me lancer dans quelque chose comme... le vide ou je sais pas quoi, là, qui serait une grosse production. Comme je suis un rookie, j'irais dans quelque chose qui est pas trop ambitieux, qui coûte pas trop cher. Bon. Puis le Contre Dieu, ça serait un bon départ, je pense.
Patrick Sénécal, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous ce soir.
Ben, ça m'a fait plaisir aussi. Comme je viens de dire, c'est toujours intéressant, les balados. Puis tellement que moi, je viens d'en faire un là, aussi, là, qui s'appelle « Plus de peur que de mal » sur Patreon. On parle de peur avec des invités. Fait que si vous voulez aller voir ça, je vous encourage à y aller. Moi-même, je rentre dans l'ère des balados, même si je suis vieux.
Voilà. Donc, on peut ajouter animateur maintenant à oui. Scénariste, réalisateur, dramaturge, écrivain de fantastique et d'horreur et de romans policiers québécois.
C'est ça. Merci beaucoup. Là.
Merci beaucoup. Passez une agréable soirée à tout le monde. Bon congé de Pâques si on ne se reparle pas. Puis à mardi, les amis. Merci d'avoir été là. Ciao.
Marceau, le soir.
Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, planifiez votre consultation sans frais chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $. Pour en profiter, direction cliniqueviva.com.
Depuis 100 ans, Junot et Frères est votre expert en peinture et décoration.
Jusqu'au 23 mars, 50 % de rabais sur le deuxième galon Régal Select et peinture à plafond Benjamin Moore. Juno et frères sur Pierre Bertrand et nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
102-1. Chaque message publicitaire que vous entendez à Boulevard 102-1 représente bien plus qu'une simple annonce.
Derrière ces messages, il y a des entreprises d'ici qui investissent dans notre milieu, créent des emplois et contribuent à la vitalité économique de la grande région de Québec.
Encourager les clients de Boulevard 102-1, c'est de poser un geste concret d'achat local.
Merci d'encourager nos clients. Merci d'encourager l'achat local. Merci d'encourager Boulevard 102-1.
Pendant le long week-end de Pâques à Boulevard, on change les petits lapins et les petits poussins en monstres du rock. Le spécial Année 2000 à Boulevard 102.
Dan et Colosse vous présente ce qui s'est fait de meilleur dans le rock dans les 26 dernières années. On ressuscite même des grosses tunes qu'on vous a jouées à Boulevard. Dans le fond, on souligne les artistes importants sortis après le bug de l'an 2000. Le meilleur rock des années 2000, présenté par Identité Québec, qui vous aide à laisser le passé derrière. Demande de pardon, vérification d'antécédents et plus. Identité Québec, à un clic de ta liberté.
Boulevard.
Il y a une seule façon de partir la web radio de Boulevard 102.1. Tu vas au blvd.fm, puis tu pèses sur play.
102.1.
Avant d'appeler le garagiste puis de signer une facture salée, fais un arrêt stratégique chez Pièces d'Auto Extra. Les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et la nouvelle succursale de Beauport. Piècesautoextra.com.
T'as besoin de plus de temps dans ta journée puis t'as ton permis classe 1 ou de classe 3? Ça donne bien. Service alimentaire Gordon recrute. Avec une gamme d'avantages sociaux plus que complète et des horaires qui te permettent d'avoir encore plus de temps pour toi et ta famille, pourquoi tu te poses encore la question? Deviens chauffeur-livreur classe 1 ou classe 3 chez Service alimentaire Gordon. Simplifie ta vie, postule au recrutement à gfs.com.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez Miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Même après la date limite des échanges, l'alignement de Boulevard 102 vient de signer une acquisition de taille. Dès le 7 avril, la réputée journaliste Catherine Bachan se joint à Max Larouche dans le Point de Max. Une bonne passe à palette pour faire le suivi des gros dossiers dont tout le monde parle. Tous les jours, 10 heures, la fougue, la curiosité et la vivacité d'esprit de Max seront maintenant appuyés par la crédibilité et l'expertise journalistique de Kat Bachan. Le show que personne veut manquer. Le Point de Max avec Catherine Bachan puis Max Larouche, dès le 7 avril. Soyez là, mesdames et messieurs.
Boulevard 102-1.
Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Talking, to herself. There's no one else who needs to know. She tells herself.